Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec un académicien.
Vous l'entendez chaque semaine dans le podcast Petite Histoire de Science, et si d'ordinaire c'est lui qui mène la conversation, Étienne Gis s'est prêté cette semaine au jeu de l'interview portrait. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences nous a donné rendez-vous dans son lieu préféré au palais de l'Institut, les archives de l'Académie des sciences. Et au milieu de kilomètres de rayonnage, de manuscrits reliés et de papiers séculaires, il évoque ses ancêtres mathématiques, sa communauté scientifique et la charge si singulière qu'il incarne. Mais plus que les titres ou les fonctions, ce sont ses élèves qui ont compté. Là où commence pour lui l'essentiel, la transmission. Étienne Gis est le 9e invité dans l'habit vert. Étienne Gis, merci beaucoup d'être à notre micro. D'habitude, c'est vous qui posez les questions de votre podcast Petite Histoire de Science.
Voilà pourquoi je suis très impressionné.
C'est moi qui suis impressionnée. Alors cette fois-ci, c'est vous l'invité. Je suis vraiment très contente de vous recevoir. Nous sommes dans un lieu particulier parce que je demande toujours à nos invités de nous emmener dans un lieu important pour eux. Parfois, c'est leur domicile, souvent leur bureau. Vous avez choisi votre... Vous m'avez dit que c'était votre endroit préféré à l'Académie. Où est-ce qu'on est ?
On est entouré par des boîtes d'archives de tous les âges. L'Académie des sciences a été fondée en 1666. Depuis cette époque, on conserve tous les papiers, parfois des papiers sans intérêt, parfois des papiers très importants. Certains ont été lus, d'autres n'ont jamais été ouverts. Il y a des boîtes ici, si on les ouvre, c'est plein de poussière, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, cet endroit, je l'aime bien parce que j'ai l'impression de me trouver dans ma communauté.
Dans votre communauté scientifique.
Oui, c'est de là, ma communauté est scientifique. Oui. Voilà, j'ai l'impression d'être là où je suis né, en quelque sorte.
C'est vrai que là, on est entouré, donc on est dans un petit rayonnage. On est entouré, enserré de livres, de manuscrits. Alors, j'allais dire plis cachetés. Non, ils ne sont pas là, les plis cachetés.
Les plis cachetés sont de l'autre côté, ils ne sont pas bien loin.
Ils sont à côté. En tout cas, c'est une mine d'or d'archives, vraiment.
2,4 km de papier.
Et vous savez combien d'ouvrages, de livres, de manuscrits ?
Alors, des archivistes mesurent en général en kilomètres. Hein.
Okay. ça en dit long sur le nombre de livres.
D'ailleurs, ça m'agace beaucoup parce qu'ils disent des mètres linéaires, comme si un mètre pouvait ne pas être linéaire. Mais bon, les archivistes ont leur secret. Quoi.
Vous pensez que les lieux que l'on fréquente peuvent avoir un vrai impact sur notre manière de penser, de réfléchir ?
Bien sûr, bien sûr. Cet endroit ici est vraiment peut-être le plus caché dans l'Institut. Je pense que pas grand monde n'est jamais venu ici. Hein. C'est un endroit où on se sent seul, et la solitude, c'est important. Mais on se sent seul avec quand même derrière soi des petites suggestions. Je vois là à côté, je vois Langevin. Derrière moi, j'ai vu Poincaré. Je vois Lacaille. Je vois des tas de scientifiques du passé, à vrai dire, que j'ai oublié pour l'essentiel. Voilà, donc je me sens avec mes amis.
Vous avez un document, un manuscrit préféré dans lequel vous aimiez vous replonger quand vous venez ici ?
Bah, l'une des choses que j'aime bien ici, c'est bien entendu, moi je me sens très proche scientifiquement, non pas proche, inspiré par Henri Poincaré, depuis toujours.
Vous aviez fait une série d'ailleurs sur Henri Poincaré l'année dernière.
Donc chaque fois que j'ai un peu un moment de libre, je viens ouvrir la boîte Poincaré. Et dedans, on trouve des tas de papiers. Certains sont sérieux et puis d'autres ne sont pas. Hein. Des fois, il écrit à sa femme ou des fois, il écrit à un collègue. Des fois, il écrit, ça n'a aucune importance. Puis des fois, il écrit parce qu'il vient d'inventer les fonctions fuxiennes. Vous voyez, donc il y a tout un mélange et c'est ça que j'adore dans cet endroit. C'est ce mélange de toutes sortes d'informations.
Et c'est ici, je continue un petit peu sur le lieu, c'est ici qu'on a le premier enregistrement d'une voix humaine. Elle a été conservée aux archives de l'Académie des sciences.
C'était un plis-cacheté qui a été soumis par cet ingénieur qui s'appelait Scott de Martinville et qui avait enregistré sur une feuille de papier avec de la fumée, de noir de fumée. Hein. Il avait enregistré avec une petite aiguille un son humain. Il avait envoyé un plis cacheté.
Plis cacheté, alors peut-être que les auditeurs...
Ah, un plis cacheté, c'est une bizarrerie de l'Académie des sciences. Un petit peu ringarde, il faut bien le dire. C'est que toute personne qui fait une découverte ou qui a envie de cacher quelque chose, l'écrit sur une feuille de papier, la met dans une enveloppe, la ferme, l'envoie à l'Académie des sciences, on lui met un cachet sur l'enveloppe, et puis, 100 ans plus tard, nous avons l'obligation de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans.
Donc voilà. Cet enregistrement a été découvert, été écouté 100 ans plus tard.
Voilà. Et quand on a écouté cette musique, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel laboratoire d'acoustique peut le faire, on a entendu une voix qui chantait « Au clair de la lune ». C'est incroyable. La première voix humaine enregistrée dans l'histoire de l'humanité, c'est un homme qui chante « Au clair de la lune ». Voilà.
Et les auditeurs peuvent écouter l'extrait dans un épisode de Petite Histoire de Science.
Tout à fait.
Étienne Gilles, ça fait 21 ans maintenant que vous côtoyez ce lieu, plus largement l'Académie des sciences.
Oui.
Vous êtes même le secrétaire perpétuel de cette académie depuis 2019, avec votre confrère Antoine Triller. Ce n'est pas rien comme fonction, mais vous ne la mettez pas du tout au premier plan de votre vie de mathématicien. En préparant l'émission, vous m'avez dit que ce n'était pas ce qui vous importait le plus. Ce qui était plus important à vos yeux, c'était vos élèves. C'est avec eux que vous avez eu vos meilleurs souvenirs de votre parcours de scientifique.
Donc, vous savez, c'est une analogie qui n'est peut-être pas la bonne. C'est un peu comme des enfants. C'est-à-dire, la différence avec des enfants, c'est que les enfants, ils grandissent. Alors que les élèves, ils ont toujours le même âge. À chaque fois qu'on commence un doctorat avec un élève, il a toujours 22 ans, 23 ans. Et puis, au début, mes premiers étudiants, c'était un peu comme des copains, des frères. Et puis, plus récemment, mon dernier étudiant a soutenu sa thèse il y a peu de temps, à Pâques cette année. Là, je suis un peu comme son grand-père. Donc, il y a toute cette évolution du rapport humain entre le maître et l'élève qui est assez passionnante, puisqu'on peut voir toutes les faces de l'évolution d'une vie scientifique.
Avant d'enseigner, il faut dire quand même un mot sur ce que vous avez fait, Étienne Gilles, sur votre recherche. Parce que vous mettez en avant des invités divers dans vos podcasts. Vous parlez assez peu frontalement de ce que vous avez fait, vous.
C'est à cause de vous que je parle de moi.
Je sais, et merci. Des publications qui vous ont valu donc votre renommée dans le milieu. Il faut un certain bagage scientifique pour expliquer ce que vous faites. En tout cas, moi, je suis pas du tout. C'est pas du tout à ma portée directe. Alors, je vous avoue, j'ai demandé à une intelligence artificielle de m'expliquer en des termes très simples ce sur quoi portaient vos recherches en mathématiques.
Je suis intéressé.
Et je leur ai demandé aussi de m'en dire plus sur votre regard de mathématicien. Donc, j'ai eu 4 informations principales qui sont sorties. Je vous les lis, puis vous me corrigez, vous me dites si on a faux. Alors, d'après l'IA, selon Étienne Gilles, les mathématiques sont partout, même là où on ne les attend pas. C'est vrai ou c'est faux ?
Juste.
Juste ? Bon, très bien.
C'est pas l'intelligence artificielle, c'est Platon qui le disait.
Vous vous intéressez, Étienne Gilles, à la façon dont des règles simples peuvent générer des comportements très complexes, comme le chaos par exemple.
Oui, ça c'est une caractéristique de beaucoup de mathématiciens. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques ? C'est essayer de trouver des petits ressorts extrêmement simples qu'on peut bien comprendre et qui permettent de comprendre des choses plus compliquées. En fait, c'est peut-être un résumé des mathématiques. C'est des toutes petites choses qui donnent un regard sur des choses compliquées.
La beauté et l'esthétique sont au cœur de la recherche mathématique.
Alors ça, c'est intéressant parce que je le pense profondément. Maintenant, vous ne le pensez pas, parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que la beauté mathématique. Non. Alors ça pose un problème quasiment philosophique, puisque en général, on dit que la beauté est universelle et elle est spontanée. On dit que normalement, un enfant comprend ce que c'est que la beauté. Mais là, la beauté dont je vous parle, elle vous est inaccessible parce que vous n'êtes pas mathématicienne. Et c'est une question qui perturbe un peu les philosophes et les mathématiciens. Quelle est cette beauté que nous avons construite de manière un peu égoïste pour nous ? Comment se fait-il que nous avons une émotion esthétique que nous ne pouvons pas partager avec vous, par exemple ? C'est une question compliquée.
Mais alors ça, la question de la beauté, il y a une de vos anciennes élèves qui en parle. Alors, je n'ai pas réussi à appeler vos anciens étudiants parce que vous ne m'avez pas donné leur contact.
Mais... Il ne faut pas les déranger. Laissons-les travailler.
Mais j'ai retrouvé quand même une interview d'une de vos anciennes élèves, Olga Paris Romaskevitch, qui trouve que les mathématiques que vous racontez, vous, Étienne Gilles, elles paraissaient toujours belles à ses yeux. Comment vous avez essayé de les raconter, ces mathématiques, à vos élèves ?
Je vais peut-être présenter la chose différemment, c'est que les mathématiques, il y a des mathématiques qui sont moches, qui sont pas agréables, qui sont dures.
C'est-à-dire comme quoi ?
Qui sont pas sympas, quoi.
Mais comme quoi ?
Celle-là, j'ai pas envie d'en parler. Donc le choix que je fais, mes choix scientifiques, sont des choix qui sont essentiellement guidés par l'esthétique, beaucoup plus que par l'utilité. Alors, c'est pas très sérieux ce que je dis, parce que ça veut dire que quand je tombe face à une difficulté théorique difficile, beaucoup de mathématiciens vont travailler sur cette difficulté pendant longtemps, ils vont chercher à résoudre ce problème, ils vont y passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toute leur vie peut-être, et peut-être sans réussir. Ben moi, ça me fatigue, quoi. J'ai pas envie de faire des choses trop dures. Donc si je tombe sur une difficulté, j'ai honte de le dire, j'abandonne, et je vais voir autre chose. Hein? Le résultat des courses, je dis pas ça par fausse modestie, c'est que je crois que j'ai fait de belles mathématiques dans ma vie, dont je suis très fier, mais je n'ai rien fait de très profond. Je n'ai pas fait de choses très difficiles. Je suis paresseux.
Ça, c'est vous qui le dites.
Voilà, non, c'est ma perception des choses.
Vous êtes en tout cas très engagé dans la vulgarisation scientifique, Étienne Gis. Vous vous déplacez énormément dans des écoles, vous partez à la rencontre d'élèves, vous avez réalisé des films sur les mathématiques. Tout ça, ça vous a valu de recevoir la médaille de la médiation scientifique du CNRS. Donc ça, c'est une assez haute distinction, il faut le dire.
J'étais très content, oui.
Et en 2022, donc, vous avez lancé votre podcast Petite Histoire de Science. Quelle était l'ambition de ce projet ? C'est une série qui raconte la fabrique des sciences pour tous.
Vous avez vu que je ne parle pas que de mathématiques, et même je ne parle pas beaucoup de mathématiques.
Hein. Non, c'est
vrai. Ma motivation personnelle, je vais vous le dire, c'est un peu égoïste. C'est rencontrer des gens. Donc, c'est pour moi l'occasion de rencontrer souvent des confrères, mais pas toujours. Au début, je travaillais essentiellement avec des académiciens des sciences. Et vous avez remarqué que depuis quelques temps, je sors de mon petit cocon.
Vous allez à l'extérieur.
Là, je vais un peu à l'extérieur.
Interviewer des
artistes.
Et
c'est l'occasion de rencontrer des gens avec lesquels souvent même je ne suis pas d'accord. Il y a des fois, je ne vais pas dire de nom, mais il y a eu quelques interviews qui ne m'ont pas mis en colère, mais qui m'ont permis d'être en désaccord profond. Mais il n'empêche que voilà, c'est ma première motivation, rencontrer des gens. Ma deuxième motivation, c'est d'ailleurs une motivation générale pour tout ce qui est diffusion scientifique et mathématique, là aussi un peu égoïste, c'est qu'on comprend mieux quand on explique. Donc je l'ai vu avec tous mes doctorants pendant toute ma carrière, quand on a quelque chose on est en train de construire un théorème, une théorie, une idée, mais on n'est pas sûr que ça marche et on est en train de voir comment ça pourrait marcher. Si on va à un tableau noir avec un étudiant à côté et qu'on partage cette découverte en train de germer, lors de ce partage, on comprend mieux ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « Le théorème de Marguerite ». Le théorème de Marguerite explique... c'est un film, donc c'est bien sûr romancé. Mais il explique assez bien la découverte pour cette jeune femme qui découvre ce qu'est la collaboration en mathématiques. Comment est-ce qu'on peut progresser plus vite, avec beaucoup plus d'émotion, dans ce genre de recherche. Et puis mais ça mène à l'amour. Le film termine par un baiser. Je ne connais pas d'autres films qui illustre ce qu'est la jouissance de la recherche mathématique, que les gens ont du mal à comprendre.
C'est vrai, ouais, quand on ne fait pas partie de ce monde-là, hélas. Je reviens à Petite Histoire de Science, donc il y a ce podcast-là, puis vous avez aussi écrit des livres, La Petite Histoire du Flocon de Neige, La Petite Histoire du Ballon de Foot, et puis le petit dernier qui est sorti là en 2025, Ma Petite Histoire des Nombres. Pourquoi à chaque fois prendre le prisme d'une petite histoire
Parce que les gens, ils savent pas que les maths, c'est immense, mais c'est gigantesque. Et qu'il est hors de question d'expliquer tout à tout le monde. Donc, c'est juste un point de vue un peu modeste. J'essaye d'y mettre ma petite histoire des nombres, parce que j'essaye de dire comment, moi, je vois les choses un peu avec modestie, mon point de vue sur ce monde très, très grand. Pour les flocons de neige, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, peut-être non, l'Académie des sciences a créé, il y a 30 ans, une structure qui s'appelle la main à la pâte.
Oui, bien sûr.
La main à la pâte a comme mission d'aider les professeurs d'école primaire à mieux enseigner les sciences. Et puis, une fois par an, ici, dans l'Académie des sciences, dans la grande salle des séances, nous remettons des prix à des classes d'école primaire. Et donc ce jour-là, la grande salle des séances où d'habitude il y a quelques académiciens un peu vieillissants, c'est bondé d'enfants. Mais des enfants qui crient partout, et ce jour-là, on leur remet un prix, etc. Et il y a quelques années, on m'avait demandé si j'accepterais de faire un exposé de maths pour des élèves d'école primaire, mais depuis le CP. Alors j'étais un peu perplexe, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et je leur ai parlé de flocons de neige.
Comment l'idée vous est venue?
L'idée m'est venue parce que ça fait longtemps que j'aime bien les flocons de neige. Et puis j'avais lu pas mal de choses sur les flocons de neige d'un point de vue mathématique. Et puis, mieux encore, ma petite fille, qui habite toujours d'ailleurs dans la Drôme, c'était l'occasion pour elle de venir à Paris. Donc elle a pris le TGV, on a pris le TGV tous les deux, on est venu à Paris. Et en arrivant à Paris, il neigeait. Et comme vous le savez, une classe d'enfants, quand il neige, sont toutes un peu surexcitées.
C'est super, ouais.
Donc j'ai fait mon exposé, tout le monde criait, j'ai adoré ce moment. Et en sortant de là, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire un petit bouquin sur les flocons de neige. Voilà la genèse de ce bouquin.
Et vous avez réitéré avec le ballon de foot.
Exactement.
Toujours partir d'objets de la vie
quotidienne. Voilà, mon idée, partir d'un, voilà, d'objets de la vie quotidienne. Sauf que je ne joue pas au foot personnellement, mais bon.
Moi, je voulais en venir à votre premier public, Étienne J, celle qui a été votre audience la plus proche, vos doctorants. Vous avez supervisé le travail de 25 doctorants. On ne s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup parce que c'est un suivi...
Si on s'en rend compte, c'est beaucoup.
À l'échelle d'un parcours, ça peut paraître assez peu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un suivi qui dure des années pour chacun des doctorants. Et ça, vous l'avez fait pendant 35 ans. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Là, vous avez fini, vous n'avez plus le droit. Il y a une limite d'âge.
Mais c'est une honte. Le CNRS m'interdit d'avoir des étudiants.
Alors, vous auriez pu continuer.
Oui, mais je n'ai plus le droit. Ouais. Ma seule option, peut-être que je l'utiliserai plus tard quand je ne serai plus secrétaire perpétuel, c'est d'aller à l'étranger.
À l'étranger, vous pouvez. Hein? Au Brésil, peut-être.
Parfaitement, vous avez tout deviné.
Vous connaissez très bien ce pays.
Non, mais bien sûr. Alors, vous vous dites, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Peut-être qu'il faut que j'explique un peu ce que c'est que... Le quotidien du doctorant, le quotidien du directeur de thèse, c'est vraiment une association assez intime, en tout cas beaucoup plus intime à mon avis que dans d'autres disciplines. Une thèse, je ne vais pas critiquer la biologie, ce n'est pas mon but, mais un doctorant en biologie travaille dans une équipe. Il y a un chef d'équipe, il y a des sous-chefs, il a un projet global. Alors que en mathématiques, c'est le directeur de thèse qui propose un thème de réflexion à son étudiant et l'étudiant développe ce thème de réflexion, et il est en contact permanent avec son directeur de thèse, et le travail du directeur de thèse n'est pas facile du tout, parce qu'il s'agit de se forcer à ne pas faire le travail à la place de l'étudiant. Mmh. Il faut qu'il y ait une espèce de connivence entre les deux, qui puisse amener à ce que l'étudiant puisse progresser par lui-même, et arriver par lui-même à un résultat, sans que ce soit le résultat du directeur de thèse. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a une caractéristique, en tout cas pour les mathématiciens de ma génération, qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui, je me suis interdit toute ma carrière à publier quoi que ce soit avec mes étudiants.
Oui.
Hein, tous les physiciens, biologistes, etc., considèrent que c'est un cadeau qu'ils font à leurs doctorants que de publier avec eux. Moi, je considère que quand je travaille avec un étudiant, ma récompense, c'est le travail de l'étudiant. Et l'étudiant est heureux parce que c'est son travail à lui. Puis pour dire la vérité, les gens me connaissent, ils savent bien que j'ai des bons étudiants et que c'est peut-être pas par hasard. Donc, j'ai bénéficié de ces étudiants de toute façon.
Vous avez gardé contact avec eux ?
Avec tous.
Avec tous ?
Quand j'ai eu 60 ans, ils m'ont fait une très grande fête. Ils sont tous venus. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas entre eux parce qu'il y a un écart de 35 ans.
Oui, il y a un écart d'âge.
Et le mois dernier, ils m'ont fait de nouveau une fête dans le Jura. Ils sont tous venus. Et on a fait une fête mathématique pour le week-end.
C'est ça ce que vous appelez les fêtes de famille ?
Oui, c'est ça. Fête de famille.
Parce que j'en reviens à ce que vous disiez au début, ce sentiment d'appartenance à une communauté mathématique. Et vous aviez l'air de dire que ce sentiment, il est peut-être plus fort dans cette communauté mathématique-là, plus que d'autres disciplines.
Je pense, vous savez, c'était la semaine dernière, l'Institut national des sciences mathématiques et leurs interactions du CNRS a fêté ses 15 ans. Les mathématiques sont bien plus anciennes que 15 ans, mais ça fait 15 ans que le CNRS a décidé de faire une structure nationale. Donc il y avait une petite fête au siège du CNRS, avec il y avait un gâteau d'anniversaire, il y avait des bougies, on a chanté Happy Birthday et tout. Et puis le directeur du CNRS est venu, il a fait un discours, et il a essayé justement de tracer un peu les différences entre les diverses communautés, entre les mathématiciens, les physiciens, les biologistes ou même les philosophes. Et il a beaucoup insisté sur le fait que c'est une vraie communauté, parce qu'on a des valeurs communes, qui ne sont pas les valeurs des autres communautés. Il y a des règles chez nous qui sont considérées comme scandaleuses dans d'autres communautés.
Comme quoi, par exemple ?
Par exemple, un étudiant qui soutient son doctorat dans un laboratoire ne peut pas avoir un poste dans ce laboratoire. Il faut qu'il aille ailleurs.
Pourquoi ? Enfin, ça a toujours été comme ça ?
C'est... Le mandarinat, pour éviter le mandarinat. Je suis un petit peu mandarin, vous savez, moi.
Alors, le mandarinat, pour ceux qui connaissent...
Le pouvoir du professeur sur ses anciens élèves. Mmh. Il faut le rompre. Il ne faut pas accepter ça. Pendant très longtemps, l'université française, pas que française d'ailleurs, a souffert du fait que des grands professeurs, en quelque sorte, monopolisent toute l'activité scientifique de leur laboratoire ou de leur université, et parce qu'ils ont un pouvoir sur leurs anciens étudiants. Donc ceci a été cassé depuis longtemps par les mathématiciens. Aucun de mes étudiants n'a eu un poste à l'ENS de Lyon où j'ai travaillé. Un deuxième exemple de caractéristique des mathématiciens, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Quand on est maître de conférence, donc le premier grade universitaire, et si on passe un concours pour devenir professeur, donc le grade supérieur, on doit déménager. On ne peut pas rester dans le même laboratoire pour la même raison. Pour uniformiser le pays et pour éviter justement ce phénomène de mandarinat.
D'accord. Et ça, ça se fait pas du tout en physique, en biologie.
Alors, il faut voir qu'ils ont raison aussi de leur côté. Mm. Prenons un physicien. Un physicien, il a fait son doctorat dans un laboratoire, probablement avec un appareil sophistiqué, je ne sais pas exactement lequel. Et cet appareil n'existe que là. Et ouais. Il est devenu expert de cet instrument. Donc c'est un peu normal que si on l'envoie à Pétaouchnok pour recommencer tout à zéro... Il ne pourra pas. Alors que le théorème de Pythagore est le même à Marseille et à Lille. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse voyager comme ça. Depuis très longtemps, les mathématiciens voyagent énormément.
Et vous, vous avez aussi beaucoup voyagé. J'ai parlé du Brésil.
Oui.
Vous m'aviez
j'étais aux États-Unis,
confié
c'est pas mal,
une fois où vous êtes resté à New York. Mais vous, New York, vous avez moins aimé cette période.
Bon, c'est pour des raisons personnelles. Donc, j'étais à New York... Je vais donner des arguments un peu constructifs. Il y avait à New York, il y avait un professeur qui était mon idole. Et,
comment il s'appelait ?
Dennis Sullivan. Et ça a été extraordinaire pour moi de le voir travailler jour et nuit. C'était vraiment fantastique. Il me téléphonait à 2h du matin s'il avait une idée.
Hein ? Ah oui.
Et moi aussi, je pouvais faire ça. Donc ça a été un moment de collaboration extraordinaire. Et puis, c'était parfait, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, j'avais un bébé, et New York avec un bébé, c'est compliqué. Mmh. Et puis, je prenais le métro, puis le métro à New York, c'était compliqué.
C'est pas la vie la plus facile. Ouais.
Et puis, à l'époque, le New York de l'époque était un peu plus dangereux qu'aujourd'hui. Et puis, je devais enseigner dans le Queens. Donc, voilà, donc, j'enseignais. Tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, et j'ai eu besoin de prendre ma liberté, quoi.
Mmh. Et vous êtes rentré
Je suis rentré à Lille.
À Lille, l'endroit où vous êtes né.
Voilà.
En 1954.
Voilà, vous savez tout.
Vous m'avez donné accès, Tiengis, à votre arbre généalogique. Alors attention, je ne parle pas d'un arbre familial, mais votre arbre généalogique mathématique. C'est-à-dire que c'est un arbre qui met en lien les mentors, si je ne me trompe pas, de vos mentors à vous.
Exactement.
Ça, et ça remonte dans le passé.
Ça remonte loin. Hein.
Ouais, on peut remonter jusqu'à quand ?
Bah, jusqu'au début du XVIe siècle.
Ah ouais.
Et j'ai été heureux de découvrir que je suis d'une certaine façon un descendant de Kepler, mais vraiment de beaucoup de gens, d'Alembert.
De... Et d'académiciens aussi. Bah, d'Alembert oui. Qui était académicien.
Oui, oui. 26 académiciens dans, dans mon ascendance.
C'est énorme. Vous avez dit Kepler, il y en a un autre.
Oui, il n'était pas académicien.
Alors, ascendant, pardon.
Je ne remonte pas très loin, il y a Gaston Darboux qui était secrétaire perpétuel. Grand géomètre devant le Seigneur. Gaston Darboux était un géomètre différentiel qui est un peu à l'origine de beaucoup de choses, y compris en physique. Il a écrit un livre en trois volumes que je connais par cœur, presque, qui s'appelle « Leçons sur la géométrie des surfaces ». Le résumé, c'est un très grand géomètre. Voilà.
Alors, il y a une autre personnalité. Vous êtes lié à cette personne. C'est un mathématicien qui s'appelle Paul Erdős.
Oui, mais je ne suis pas spécialement lié. Tout le monde
alors,
est lié à Erdős.
Mais oui. Voilà. Alors, pour le présenter, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout, c'est un chercheur assez excentrique.
Oui, excentrique dans le sens qu'il... Non, c'est plutôt un chercheur concentrique, parce qu'il est au centre de tout.
Ah, bah, oui, voilà, exactement. En fait, il est connu pour avoir énormément publié. J'ai lu, il a fait plus de 1500 articles de recherche qui ont été publiés, ce qui est énorme.
C'est inconcevable, oui.
Mais les articles étaient de bonne qualité. Enfin, il avait...
Il s'en foutait.
Ils s'en foutaient, d'accord.
Voilà. Ça, c'est une question intéressante. Quand on est scientifique, mathématicien par exemple, on a la liberté complète de publier, en tout cas dans ma génération, qui était beaucoup moins soumise au publish or perish, hein, on publie ce que nous, on estime mériter d'être publié. Moi, j'ai dans mes armoires, mais je ne vous les montrerai pas, j'ai un grand nombre d'articles non publiés, que je n'ai jamais soumis.
Pourquoi ? Parce que
j'estime qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que je devrais faire, quoi. Hein ? Donc je me souviens une fois, j'avais lu mon Dennis Sullivan, là, me parler une fois de son « My best unpublished paper ».
Alors, en tout cas, ce Paul Erdős, il n'a pas hésité à publier. Et il a tellement collaboré avec d'autres chercheurs pour ces publications-là qu'un système a été inventé pour mesurer à quelle distance de collaboration on se trouve de lui quand on est mathématicien. Vous, c'est 4.
4, c'est déjà assez grand, hein, parce que, vous savez, c'est le small world. Hein. C'est que si on prend la population française, par exemple, et puis on dit, entre deux personnes qui ne se connaissent pas, quel est le plus court chemin de personnes qui se sont, disons, serrées la main, par exemple. Et c'est 3, 4 ou 5, c'est tout petit. Hein. Toutes ces communautés sont très connectées.
Oui,
quoi.
Et pas forcément, on ne parle pas de la même communauté. Par exemple, je ne sais pas, entre vous et Beyoncé, il y a probablement 3, 4 personnes d'écart. On ne sait
pas.
Très
cher.
Il y a une autre raison d'être fier, Étienne Gis. Enfin, vous ne le direz pas, évidemment, mais vous êtes secrétaire perpétuel depuis 2019 de l'Académie des sciences. Vous arrivez, je crois, à la fin de votre mandat.
Oui, dans un an et demi. Oui.
Dans un an et demi. Comment vous envisagez ce changement à venir ? Parce que, est-ce que vous pourrez vous représenter
non.
après ? Non.
Non. Ça, c'est une très bonne idée qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui doit... Enfin, pas si vieille à l'aune de l'Académie. Je crois que ça fait 50 ans. Auparavant, on était secrétaire perpétuel à vie,
ouais.
Perpétuité,
jusqu'à,
comme à l'Académie française.
La
hein. Et puis bon, à un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée d'avoir des vieux roudoudous secrétaires perpétuels. Et donc, il a été décidé, je ne sais pas quand, il y a, je pense 50 ans, peut-être même moins, que personne ne pourrait être secrétaire perpétuel plus que 8 ans, et personne ne pourrait être secrétaire perpétuel au-delà de l'âge de 75 ans. C'est une bonne idée.
Une petite dernière question sur cette mission de secrétaire perpétuel. Comment vous l'avez envisagée, portée qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, moi, ce que j'ai tenté de faire, et j'ai réussi partiellement, parce que les choses vont toujours plus lentement que ce que je voudrais, c'est de moderniser un peu l'Académie des sciences, qui paye le prix de son âge. Donc, il y a toujours une espèce de conflit entre cette modernisation d'un côté et puis cet sens de la tradition de l'autre côté. Même si moi aussi, je vous l'ai dit au début, moi, je suis très sensible à la tradition, mais quand même, on a aujourd'hui des moyens de travailler qui sont associés à notre monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on puisse le faire, en tout cas dans l'Académie des sciences. Donc là, j'ai essayé de faire des progrès là-dessus, donc par exemple sur le nombre d'académiciens. Et puis, on avait quelques casseroles qu'on traînait. Hein. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'années, l'Académie des sciences avait été considérée comme climato-sceptique. Donc j'avais le devoir de corriger ce genre de choses. Nous l'avons corrigé. Voilà. Et puis l'autre chose que je tente de faire, et que je crois avoir réussi, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'Académie des sciences n'est pas, comme par le passé, dans les mains d'un ou de deux secrétaires perpétuels, mais d'une structure plus générale avec ce qu'on appelle le bureau qui discute de manière très collégiale.
Vous avez une épée d'académicien ?
Non.
Vous
si.
N'avez... Ah non. Si ? Mais c'est obligé. Enfin, non, c'est pas obligatoire, mais ça
alors,
fait partie de l'uniforme.
On va être précis. Non seulement ça n'est pas obligatoire, mais c'est interdit.
Comment ça ?
J'ai dégoté un texte du début du 19e siècle d'un académicien des Beaux-Arts qui a fait un discours lors de la réunion des 5 académies, la fin octobre.
La rentrée solennelle,
voilà,
ouais.
Où il explique avec des arguments précis que le port de l'épée, y compris à l'Institut, est interdit.
Alors ça ?
Alors, ça, c'est une première chose. Et en fait, il semblerait que ce port de l'épée n'est même pas... Il n'y en avait pas au départ.
Ah oui ?
C'est une espèce de retour de bourgeoisie, en quelque sorte. Hein. Donc, au départ, quand même, l'Académie des, au moment de l'Institut, c'était quand même... l'épée, c'était pour les militaires. Hein. Hein. Bon, donc voilà. Donc, première réponse, il est interdit de porter l'épée. Bon, je vous le dis.
Règle qui n'est pas du tout suivie ici. Hein.
Alors, deuxième remarque, parmi les scientifiques, bien rares ceux qui ont une épée. Je pense qu'il y a au plus 10 qui en ont une. Hein.
Mais vous en avez eu une quand vous avez...
Non.
Non ?
Mais presque oui, puisque... On parlait tout à l'heure de fête de famille. Quand mes étudiants m'ont offert une épée que je n'ai jamais amenée à Paris, et qui est chez moi.
Est-ce qu'on peut savoir à quoi elle ressemble ?
Non, c'est une épée. Eh ben, vous savez, les mathématiciens ne sont pas riches. Hein, donc ils m'ont acheté une belle épée de l'époque napoléonienne.
D'accord.
Mais elle n'est pas gravée en aucune manière.
Hein. Oui, vous ne l'avez
mais
pas...
Mais j'y accorde pas d'importance académique. Pour moi, l'épée, c'est juste un symbole de ce bon moment avec ses étudiants.
En tout cas, vous portez l'habit lors des réceptions.
Là,
on voit
c'est
souvent,
bien obligé. Hein.
Mais pas en ce moment, parce que... Il fait assez chaud.
Non, mais je vais vous dire, ça aussi, c'est une question intéressante pour le débat entre nous, d'ailleurs. Hein.
Ah oui ?
Parce qu'il y a un grand nombre de mes confrères qui trouvent que cet habit est un peu ringard, quoi, dans le sens qu'il illustre une vision de la science qui n'est pas ce qu'on voudrait projeter de la science aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc il y a des débats là-dessus. Bon, je le porte parce que là, je suis obligé. Si je ne le porte pas, je vais me faire attraper. Hein.
En tout cas, l'Académie des sciences organise énormément d'événements à l'Institut, à l'Académie, dans l'auditorium, sous la coupole. Donc voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder sur le site de l'Académie des sciences parce qu'il se passe plein de choses toute l'année, tous les jours. Presque tous les jours.
Presque tous les jours.
Presque tous les jours. On en arrive à la dernière séquence de l'entretien. On a l'habitude de finir par un petit questionnaire un peu à la Proust.
Oula, allons-y.
Alors, Étienne Gis, votre chiffre préféré ?
Le 7, comme tout le monde.
Un symbole mathématique que vous trouvez beau ?
La plupart des mathématiciens trouvent que le plus beau symbole, c'est le symbole de l'intégrale. Vous savez, ce signe qui ressemble à... Au départ, c'était un S, comme somme. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il s'est déformé progressivement dans l'histoire. Et maintenant, on dirait un peu les... Comment on appelle ça, les trous qu'il y a dans les violons, vous savez, un peu... C'est très joli. Et j'adore le dessiner.
Un mathématicien ou une mathématicienne que vous admirez particulièrement ? Poincaré ?
Oui, ça c'est clair, c'est Poincaré. Parce que j'aime bien Poincaré parce que... À cause du fait qu'il fait beaucoup d'erreurs... Et qu'il passe par-dessus ses erreurs, il les corrige. Et c'est pas qu'il est fier de faire des erreurs, mais ça le dérange pas. Il avance. Il avance toujours. C'est pas comme les gens qui, dès qu'ils ont fait une erreur, j'ai dit ça, je me suis trompé, tout ça. Il avance, il sait où il va et il y va. Quoi.
Moi, oui, il a pas un égo énorme.
Non, pas du tout. Mais il pourrait, il aurait le droit.
Une énigme mathématique qui vous a marqué ?
Ça, c'est une question intéressante parce que. En fait, j'aime pas beaucoup les petits jeux, les questions, les énigmes, les machins comme ça. Beaucoup de mathématiciens ont été motivés quand ils étaient jeunes par des petites questions comme ça, des questions comme les Olympiades des maths, ou des choses comme ça. Moi, ça m'a toujours gonflé. Non, j'aime bien pas les énigmes, j'aime bien réfléchir sur un problème dont l'énoncé n'existe pas. Donc, il faut fabriquer l'énoncé. Qu'est-ce que je veux comprendre quelque chose ? C'est pas pour aller là, quoi. C'est de comprendre un paysage, quoi.
Et en parlant d'énoncer, votre théorème fétiche mathématique ?
Alors ça, c'est sans aucun doute, je pense, le théorème de Anosov qui garantit l'existence de systèmes dynamiques structurellement stables. Alors ça, Anosov, c'était le début de ma carrière, c'était l'émotion de découvrir ces théorèmes, et puis je ne pensais pas que ce monsieur Anosov existait.
Ouais.
Et un jour, j'étais dans mon bureau, c'était à Rio, frappe à la porte, entrait, et il arrive, et c'était Anosov. Et je vois un gros monsieur, là, il dit « Let me introduce myself, I am Anosov ». J'aurais jamais cru qu'Anosov existait en vrai, quoi. Et j'étais très content de le voir, et il m'a raconté des trucs incroyables, comme quoi on peut être mathématicien complètement fou. Il était persuadé qu'il était la réincarnation de Cauchy. Cauchy, grand mathématicien de début 19e siècle. Donc, il était convaincu qui était une réincarnation. C'est impressionnant. Ah oui. Voilà.
là, on peut parler d'un homme excentrique aussi.
Voilà, tout à fait.
La musique que vous avez en tête en ce moment.
Ah, alors c'est intéressant parce que si je réponds honnêtement, je n'en ai aucune. Dans le sens que je n'ai jamais eu d'éducation musicale dans ma vie, probablement parce que mon père était sourd et que la musique, je n'ai jamais écouté sérieusement avant un âge avancé. Et, mais aujourd'hui, là, je suis un peu débutant. Mmh. Voilà.
Mais vous écoutez ?
J'écoute pas mal maintenant, mais comme un élève de première année, quoi. Donc, je n'ai pas la capacité d'apprécier. J'étais l'autre jour à l'opéra à écouter Manon. J'ai adoré. Adoré. Voilà. Vous étiez aussi ?
Oui.
Voilà. Donc, j'ai adoré ça. Donc, c'est des genres d'émotions qui me prennent. Mais je ne peux pas apprécier la musique, certainement pas comme un spécialiste. Et je ne suis pas mélomane, quoi.
Oui, mais tant qu'il y a de l'émotion.
Voilà.
On finira avec Manon, parce qu'on aimerait bien... on vous a allègrement piqué l'idée, parce que vous finissez toujours Petite Histoire de Science avec de la musique. Et nous avons beaucoup aimé cette idée. Donc, du coup, depuis, nous la mettons aussi à la fin de nos portraits.
Eh bien, c'est parfait. Très bien. On va se copier.
Donc, par quoi on finit ? Par Manon ?
Ah, c'est parfait.
Eh bien, nous finirons par Manon. Merci à vous.
Merci beaucoup.
En habit vert, rencontre avec un académicien. Les podcasts de l'Institut de France.